Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Ce matin, on va commencer un message qui sera en deux parties. Le titre de ce message, c'est « Permets-moi d'aller d'abord ». Permets-moi d'aller d'abord. Ok. Peut-être ça vous dit rien, peut-être certains ont déjà trouvé dans quel passage de la Bible. Eh bien, on va partager ce matin. Juste pour vous situer le contexte des textes que l'on va lire, c'est toujours important de connaître le contexte des choses. Jésus descend de la montagne des Béatitudes, donc il vient d'apporter ses enseignements, on appelle ça le sermon sur la montagne. Il descend de la montagne des Béatitudes et alors qu'il descend, il va croiser un lépreux qu'il va guérir. Puis après, un centenier va venir vers lui alors qu'ils arrivent à Capernaum. Il vient pour que l'on prie pour son serviteur qui est malade, paralysé et fort tourmenté, nous dit la Bible. Ensuite, Jésus va guérir la belle-mère de Pierre qui est atteinte de la fièvre. Et plusieurs démoniaques et malades vont venir vers lui. Il va les délivrer de l'emprise démoniaque et les guérir. Et puis après, il va y avoir la traversée du lac. Vous connaissez ce fameux épisode de la traversée du lac avec cette tempête. D'ailleurs, c'est curieux la traversée du lac avec la tempête, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qui se passe quand la tempête va se déchaîner? Quelle va être l'attitude des disciples? Ils vont être effrayés, ils vont avoir peur. Et que vont faire les disciples quand ils vont avoir peur? Ils vont réveiller Jésus. Et que va faire Jésus? Il reste calme, et puis il va leur dire, il va leur reprocher leur peu de foi, et puis que va-t-il faire? Il va calmer la tempête. Et devant le fait que Jésus calme la tempête, que se passe-t-il au niveau des disciples? Ils vont avoir une crainte respectueuse du Seigneur. Mais qui est-il celui-ci à qui les éléments obéissent? Il donne l'ordre au vent de se calmer, à la mer de se calmer. Et alors qu'ils avaient la crainte des événements, cette crainte va se changer par une crainte respectueuse vis-à-vis de Jésus. Comme quoi, la crainte, on ne la met pas forcément sur la bonne chose. Il passe d'une crainte à une autre. Si nous avions plus la bonne crainte, c'est juste un petit truc que je vous donne ce matin, peut-être qu'on aurait un peu moins crainte pour d'autres choses, pour les circonstances, pour les tempêtes qui sont autour de nous. Que le Seigneur nous donne à comprendre que la traversée de la mer, cette mer tempétueuse, eh bien nous amène à avoir la bonne crainte dans nos cœurs, celle qui est pour le Seigneur. Et puis alors qu'ils débarquent de l'autre côté du lac, ils ont traversé le lac, ils arrivent dans le pays des Gadaréniens et là deux démoniaques viennent vers Jésus. Il va les délivrer et après avoir accompli une partie de son ministère de l'autre côté, ils restent pas très longtemps, ils reprennent le bateau et retournent de l'autre côté du lac, donc vers Capernaum. Moment très compliqué, ou plutôt très intense spirituellement. Et le texte que je vais partager avec vous ce matin se situe juste avant de traverser le lac, après être descendu de la montagne, après avoir guéri donc le lépreux, le serviteur du centenier qui était paralysé et tourmenté, après avoir guéri la belle-mère de Pierre de sa fièvre et plusieurs démoniaques et malades, eh bien vient le moment de traverser le lac. Et il est dit que Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Une foule entourait Jésus. Et au milieu de cette foule, un scribe s'approcha de lui, s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, vous allez comprendre pourquoi le titre, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 57 à 62 fait référence au même passage, mais nous renvoie des informations supplémentaires. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête ». Il dit à un autre « Suis-moi ». Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père ». Et Luc nous parle d'un troisième homme. Jésus lui dit, donc, attendez. Et il répondit « Permets-moi d'ensevelir mon père ». Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu ». Un autre dit donc, le troisième homme, « Je te suivrai, Seigneur, et permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison ». Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». Ces deux textes de Matthieu et de Luc sont en parallèle. Il faut prendre ces deux textes pour comprendre la totalité du passage. Déjà, il faut que vous sachiez que les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Pour avoir le détail chronologique, il faut lire l'évangile de Luc. Matthieu n'a pas travaillé son évangile d'un point de vue chronologique. Donc les événements ne sont pas mis dans une succession du temps, d'une manière chronologique, mais plutôt par récit d'importance ou par similarité de récit. Donc quand vous lisez l'évangile de Luc, vous ne pouvez pas juste vous dire « Ah d'abord il a fait ça, et après il a fait ça, et après il s'est passé ça ». C'est plutôt dans Matthieu qu'il faut lire pour avoir le détail étape après. C'est dans Matthieu que c'est chronologique et dans Luc que ça ne l'est pas. D'accord ? Bah, je recorrige alors, s'il le faut. Donc, dans Matthieu, c'est un détail qui est donné d'une manière chronologique. Vous pouvez suivre étape par étape, alors que dans Luc, ce n'est pas dans un point de vue chronologique que ça a été écrit, mais ça a été écrit par thème ou degré d'importance, donc dans l'évangile de Matthieu. Mais il faut mettre ces deux textes en parallèle. Ça va ? Écoutez, vous avez compris, on ne va pas rester là-dessus pendant 2 heures. Donc, dans ces deux textes parallèles des évangiles, Jésus et ses disciples sont entourés d'une grande foule sur la rive ouest de la mer de Galilée. Jésus donna alors l'ordre de passer sur l'autre bord. Sans doute en raison de l'importance de cette foule et de la grande activité qu'ils venaient tous de vivre. Il y a eu le sermon sur la montagne. Et puis il y a eu les guérisons, il y a toute cette foule qui est là. Peut-être un temps de repos et de répit était le bienvenu pour permettre à chacun de reprendre des forces. En tout cas, c'était certainement ce que les disciples devaient penser. C'est bon, on va se faire une petite croisière sur le lac. Et puis on ira se reposer de l'autre côté après cette intense activité que nous avons vécue. Mais à ce moment précis, les évangiles nous rapportent que plusieurs hommes vécurent un échange avec le Seigneur. On peut compter en tout 3 hommes qui échangèrent avec Jésus quand on croise les 2 récits parallèles de Matthieu 8 et de Luc 9. Quand on cherche le point commun à ces 3 hommes, quand on essaye de comprendre qu'est-ce qui les rapproche l'un de l'autre, c'est qu'au fond d'eux, ils ne voulaient pas partir et suivre Jésus avec tous ceux qui s'apprêtaient à embarquer pour passer de l'autre côté du lac. Et vous allez me dire, mais pourtant ils sont bienvenus vers Jésus. Le scribe a bien dit, j'irai avec toi partout où tu iras, je ne te délaisserai pas, je serai toujours avec toi. Et pourtant, on va voir ensemble que le point commun de ces 3 hommes, c'est qu'en réalité, aucun d'eux ne voulait embarquer et aller de l'autre côté du lac. Cet épisode des évangiles nous a été rapporté pour nous questionner sur 2 points essentiels par rapport à nos vies. La parole de Dieu ne fait pas juste état d'un récit historique. C'est bien de connaître l'historicité de la vie de Jésus et de ce qui s'est passé autour de lui dans le cadre de son ministère. La Bible nous rapporte des faits historiques. Mais au-delà de nous amener la connaissance d'un récit historique, elle nous amène à nous questionner en face de ce récit. Et les 2 questions qu'on doit se poser au travers de ces passages sont les suivantes. Quelles sont nos limites et quelles sont nos priorités. Quelles sont nos limites et quelles sont nos priorités ? On arrive à la fin de l'année 2019, on va entrer dans 2020. Et je pense que se poser la question, quelles sont nos limites et quelles sont nos priorités au début de cette nouvelle année qui s'en vient, eh bien je pense que c'est important et capital. Au vu de l'année que tu viens de passer, as-tu confronté certaines de tes limites cette année ? Est-ce que tu vas te contenter de les confronter et de les poser comme une réalité dans ta vie incontournable ? Et quelles sont en réalité tes priorités cette année qui vient de défiler ? Est-ce que tes priorités étaient au bon endroit ? Est-ce que les choses étaient bien rangées en ordre d'importance selon ce que Dieu veut dans ta vie ? Il faut commencer par lire les évangiles pour commencer à réaliser ce que signifie suivre Jésus. Ou ce qu'est la vie chrétienne en réalité. Car il y a un temps pour chacun de nous d'être confronté à ses propres limites. Et de répondre au questionnement du Seigneur sur la réalité de notre foi. Souvent quand on rend témoignage de la foi chrétienne, on explique comment c'est super et génial d'être un disciple de Jésus-Christ. Comment ça facilite la vie d'être un disciple de Jésus-Christ. Et on fait ressortir tout le bon côté de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a un bon côté à la vie chrétienne ? Mais bien sûr. Être chrétien, avoir été appelé au salut par Dieu, quel privilège, quelle grâce, quel bonheur de se retrouver avec des hommes et des femmes qui en la foi sont devenus et dans l'esprit nos frères et nos sœurs et de partager avec eux des moments de gloire dans l'adoration du Seigneur. C'est formidable d'être chrétien. Mais j'aimerais juste vous lire un texte. Et c'est Jésus qui, un peu plus loin, puisqu'on est en train de lire dans Matthieu 8, là on est dans Matthieu 10. Et regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 10 au chapitre 16 et au verset 20. Et il parle à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui sont chrétiens. Et je ne sais pas si ce matin, je vous disais, vous êtes des chrétiens, alors voilà, je vais vous expliquer ce qu'il en retourne. Je vais vous expliquer 2020. Vous êtes prêts ? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de coups de bâton dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné alors même. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est sûr qu'on ne s'imagine pas toujours que la vie chrétienne puisse nous entraîner dans ce type de circonstances-là. Jésus était clairement en train de dire à ses disciples, « Ok, vous voulez me suivre ? La persécution vous attend. » Si aujourd'hui, telle était la réalité de nos vies, quoique je pense qu'on n'en est pas si loin que ça, je ne suis pas sûr que tout le monde suivrait, réellement. Dans les évangiles, nous lisons que beaucoup de personnes suivaient Jésus. Beaucoup de gens étaient là, il y avait des foules qui l'entouraient. La Bible parle de foules entières, un grand nombre d'hommes et de femmes, et même d'enfants. Quand on a le récit de la multiplication des pains, on voit qu'ils étaient des milliers. Mais quelles étaient les motivations qui animaient réellement ces foules ? Sans tomber dans la généralisation, nous pouvons penser que beaucoup suivaient Jésus par intérêt. Ben c'est vrai, s'il nourrissait les foules, toujours cool. de venir pour avoir un repas gratos. Certains venaient parce qu'ils étaient malades. Et à cette époque, il n'y avait pas des pharmacies dans tous les coins de rue, il n'y avait en tout cas pas la sécurité sociale. Et de venir à Jésus qui guérissait les malades, c'était juste, eh bien, très intéressant de pouvoir être guéri. Il y a le récit des 10 lépreux, les 10 viennent, et les 10 ont été guéris, mais un seul va revenir vers Jésus. Et les 9 autres, où sont-ils ? Ils étaient venus juste par intérêt. Et on voit qu'au milieu des foules, alors nous on est contents, hein. Waouh, il y a des milliers de personnes qui suivent Jésus, c'est génial. Tu as vu cette grande réunion d'évangélisation, des millions de gens devant cet évangéliste. Ouais, mais combien suivent Jésus, vraiment ? Combien ? Il faut réaliser ce que c'est que de suivre Jésus. Quelles étaient les motivations qui animaient vraiment ces foules ? Peut-être certains venaient pour les miracles. Peut-être que d'autres pensaient qu'il était vraiment le Messie conquérant qui était venu enfin pour délivrer Israël du joug des Romains. Et tant qu'à faire, faisons partie de sa garde rapprochée, parce que comme il va le prendre le trône d'Israël, c'est toujours bon d'être nommé ministre du futur roi qui va régner sur Israël, en tout cas d'être dans sa garde rapprochée. Seulement dans Jean 6, nous lisons qu'après le discours de Jésus dans la synagogue de Capernaum, plusieurs de ses disciples, vous pourrez aller lire le discours de Jean 6, des fois on a du mal même à comprendre pourquoi ils vont dire ce qu'ils vont dire. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? C'est vrai que la prédication de Jésus n'était pas forcément des plus tendres. Son message pouvait passer pour un message radical. En tout cas, il était percutant. Il allait à l'essentiel et ne faisait pas de compromis. Et son but n'était pas d'entraîner à sa suite une quantité de gens qui le suivaient par intérêt, mais d'attirer à lui tous ceux que le Père avait élus depuis la fondation du monde. Ainsi, dans la suite d'un message jugé dur à entendre, quand Jésus déclara dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 65, « C'est pourquoi je vous dis, » et il est toujours dans la synagogue, « que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Juste sur cette parole-là, savez-vous ce qui va se passer ? Il y eut comme une vague dévastatrice au milieu des soi-disant disciples de Jésus. En effet, une telle déclaration repoussa une quantité de disciples, puisqu'il est écrit au verset 66 que dès ce moment-là, plusieurs des disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Franchement, Jésus, il n'est pas très consensuel. S'il veut vraiment fonder son royaume, il s'y prend mal. Non, politiquement parlant. Il est en train de faire fuir les gens. Il leur annonce des réalités qui font peur. Il est en train de leur faire voir que ce n'est pas tant eux qui l'ont choisi, mais que c'est son Père dans les cieux qui les ont amenés à lui. Et là, il est en train de leur dire, vous n'êtes pas maître de votre destin, c'est Dieu qui est maître de votre vie. Et là, ça a plus passé. Ils n'acceptaient pas ça. Nous pourrions être étonnés ou surpris par l'attitude de Jésus. N'était-il pas venu pour sauver toutes les âmes ? Son message ne pouvait-il pas être plus unanime, plus consensuel ? Nous ne pouvons douter que Jésus savait par avance qu'à la suite d'un tel message, plusieurs allaient l'abandonner. Il était au courant. Jésus n'avait pas été maladroit. Il ne s'est pas dit... J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire. Ah, du coup, ils sont partis. Mince. Il faut que je note dans mon petit carnet que ça, il ne faut plus le dire. Parce que ça ne plaît pas. Non, Jésus ne s'est pas dit ça. Il n'a pas été maladroit. Il n'avait pas commis une seule erreur dans ses propos. Et chacun de ses mots était véritablement pesé et conduit par l'Esprit Saint. Ils atteignaient tous leur but et ne revenaient pas à lui sans porter leurs fruits ou effectuer leur tri. Écoutez bien, ce que disait Jésus ne revenait pas à lui sans avoir porté son fruit dans les cœurs ou effectué son tri. Parce que toute parole de Dieu n'est pas faite pour porter du fruit, elle est faite aussi pour effectuer du tri. Elle est comme l'épée qui sépare. Ah. Jésus ne cherchait pas à se faire un auditoire. Et ne visait pas un succès de croissance. Il n'était pas là à dire, « Bon, Pierre, t'as compté ? Il y en avait combien ce matin ? » ?»« Il y en avait 1500. »« Ouais, faudrait qu'on ait pour objectif de faire 2000 la semaine prochaine. »« Ah, bah ça va être dur, Seigneur. »« Ah, bah écoute, on va essayer de regarder. »« Je vais essayer de faire que mon message plaise au plus grand nombre pour essayer d'atteindre les 2000 la semaine prochaine. » Jésus n'avait aucun objectif de croissance en soi pour se faire un auditoire. Il n'avait pas un objectif de croissance en additionnant le plus de disciples possible ou en agglomérant autour de lui une foule de partisans. Il n'était pas dans une démarche, entre guillemets, politicienne. Il ne montait pas un parti politique. Il va aller encore plus loin, puisque au verset 67, toujours de l'évangile de Jean, dans Jean 6, 67, il dit même aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Presque, on a l'impression que Jésus est en train de dire, « Allez, partez si vous voulez. » Souvent, les pasteurs, je sais ce que c'est, hein, je suis pasteur, quand on voit une personne qui n'est pas bien, qui est un peu rebelle, etc., qui veut s'en aller, on est là. Mais non, t'en vas pas, faut qu'on discute, on va essayer de faire... Jésus, il fait, tu veux t'en aller, va-t'en. Il n'est pas en train de retenir. Tu veux partir, bah pars. Il n'y a pas pire que de retenir quelqu'un. Non ? Parce que finalement, si on le retient, c'est qu'il et qu'il reste, il n'est pas là de son cœur. Et peut-on suivre Jésus sans que notre cœur entier soit disposé à le faire? Alors Jésus va dire aux 12, si vous voulez, partez, vous aussi. Mais Jésus, quel curieux pasteur, n'est-ce pas? Il est bizarre ce pasteur. Presque il est en train de vouloir mettre les gens dehors. Tous les pasteurs disent, entrez, venez. Et Jésus dit, sortez, sortez. D'ailleurs, dans la parabole de la bergerie, il se tient à la porte et il dit, venez dehors. Alors que tous les bergers sont à la porte et disent, entrez dedans. Entrez. Il est bizarre ce pasteur, n'est-ce pas? Il est vraiment curieux dans sa méthodologie, dans sa prédication. N'était-il pas déconcertant sur certains points pour que des disciples décident alors de le quitter? Ah non, mais il y a un problème avec ses enseignements, il y a des trucs là, nous, c'est trop compliqué là, puis... En réalité, Jésus savait qu'il y avait des opportunistes qui le suivaient. Des gens mal intentionnés et motivés par les mauvaises raisons. Ils n'étaient pas là pour les bonnes raisons. D'ailleurs, on devrait se poser la question, pour quelles raisons je suis là ce matin? Est-ce que parce que... voilà, j'ai envie de voir des frères et sœurs parce que je me sens un peu seul chez moi. Est-ce que parce que j'ai repéré, je suis célib, et j'ai repéré un gars qui me plaît bien ou une fille qui me plaît bien et... Oh, c'est bizarre, il y a des soubresauts dans le fond. Pour quelle raison je suis là? Ça pourrait être très édifiant de poser la question les uns après les autres. Mais pourquoi tu es là ce matin? C'est quoi ta raison? Ta motivation profonde? D'ailleurs, la question qu'il avait posée aux 12 était réellement le fruit de la préscience, de la préconnaissance de Jésus, qui visait directement qui? Judas
Iscariote. Puisqu'au verset 70 et 71, Jésus déclara « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Non, Jésus ne se laissait pas tromper par les apparences. Quand il a choisi Judas, il ne l'a pas choisi par mégarde. C'était dans le plan de Dieu que Judas livre Jésus. Et son cœur était tout entier disposé à le faire. Il a été un instrument et Jésus l'a choisi à dessein. Comme il a choisi Pharaon, comme il a choisi les Assyriens et les Babyloniens pour emmener en exil le peuple juif qui vivait dans une débauche et une idolâtrie. Jésus ne se laissait pas tromper par les apparences, ni par les déclarations d'intention. « Je te suivrai partout où tu iras, jamais je te renierai. » Waouh ! Ok ! Quelle belle phrase ! Il savait dans quelle disposition était le cœur de ceux qui le suivaient. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai un peu d'années derrière moi. Pour savoir que les déclarations d'intention, parfois, c'est... Quelle est la plus belle déclaration d'intention que peut faire un disciple de Jésus-Christ ? À quel moment de sa vie il a fait ? Le jour de son baptême. Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans mon ministère, j'ai vu des gens se baptiser, ils n'étaient même pas encore secs qu'ils avaient déjà abandonné Jésus. Alors pardonnez-moi, mais les déclarations d'intention, il faut qu'elles soient poussées par un cœur entier pour le Seigneur. Un cœur entier pour le Seigneur. Jésus avait des disciples qui le suivaient, mais qui en réalité ressemblaient. C'était un peu comme des disciples. Chez les Gitans, on disait ils sont Canada Dry. Vous allez dire, mais pourquoi Canada Dry ? Parce que le Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Alors, c'est des disciples Canada Dry, ça ressemble à des chrétiens. Ça a la couleur de chrétien, mais en réalité, ce n'est pas des chrétiens. Oui, certains ont de belles déclarations d'intention. Mais Jésus savait dans quelle disposition était le cœur de ceux qui le suivaient. Même si ces personnes ne mesuraient pas véritablement leur degré d'engagement, comme la superficialité dans laquelle était leur foi, Jésus, lui, le savait. Parfois, on se croit plus que ce que l'on est. On pense qu'on va pouvoir le faire. Et tu es là, tu te dis, je peux sauter là. Je pense que je peux. Puis tu as les copains autour, alors tu te dis, il faut que je saute. Hein. Et puis tu sautes et tu te fracasses. Et tu te dis, je pensais que je pouvais le faire. Je pensais que je pouvais y arriver. Je pensais que c'était possible, mais en réalité, je me suis bien rendu compte que mes limites m'empêcher de le faire. Et parfois dans la vie spirituelle, c'est à peu près la même chose. On pense qu'on en est capable, mais s'il y a bien quelqu'un qui sait qu'on en est incapable, c'est Jésus. Alors il ne se trompe pas quand on lui dit « Mais Seigneur, je peux le faire et je vais le faire ». Il sait très bien comment ça va se finaliser tout cela. Nous sommes parfois très présomptueux avec nous-mêmes. On se pense capable. Et du coup, quand on se pense capable, on se prive de quoi ? Du Seigneur dans nos vies, de son activité dans nos cœurs. Je vais pouvoir, Seigneur. C'est bon, j'ai pas besoin de toi. Je vais y arriver. Je sais faire. Et finalement, comme Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, ça se solde par quoi ? Par des catastrophes dans nos vies. Nous pouvons penser que lorsque les premiers disciples répondirent à l'appel de Jésus et commencèrent à le suivre, ils ne savaient certainement pas à quoi s'attendre. Entre ce qu'ils avaient pu imaginer de la réalité, que la direction des choses prenait avec Jésus, les foules l'accueillaient. Il priait pour les malades étaient guéris, les possédés étaient délivrés. Il lisait les textes de l'Ancien Testament, c'était tous des Juifs qui le suivaient pour la plupart. Les prophéties annonçant la venue du Messie se réalisaient en Jésus-Christ. Et pour eux, il n'y avait pas photo. Le Messie est là. C'est lui. Alors ils se mettaient une idée en tête de où tout cela allait les amener. Il va prendre le trône de David. Il va régner sur Israël. Il va bouter les Romains hors des frontières. Le grand Israël va se rétablir. Et nous deviendrons enfin les prêtres des nations et toutes les nations viendront adorer à Jérusalem. L'orgueil national, l'orgueil spirituel, l'orgueil de la face, de la race et de la place était pleinement en action dans la venue du Messie, en tout cas dans les motivations qui animaient certains au travers de sa venue. Entre ce qu'ils avaient pu imaginer et la réalité que la direction des choses prenait avec Jésus, il y avait de quoi ternir leurs rêves. Ce n'était pas ce à quoi j'avais pensé au début, là, ce qui est en train de se passer avec ce Jésus. Surtout quand il est mort sur la croix après, les espérances, plouf. Être un disciple de Jésus, ce n'est pas vivre dans le monde merveilleux et fantasmagorique des doux rêveurs. Mais dans la réalité d'un combat virulent entre les ténèbres et la lumière, dans le chemin des renoncements et de l'abnégation qui mène tout droit où ? À la croix. À la croix. C'est le chemin tracé par Christ que nous devons suivre en le laissant vivre en nous. Je dis souvent, il y avait un grand évangéliste, je ne sais pas son nom, mais son message, lorsqu'il appelait les foules, il disait « Venez, souffrez, venez, souffrez !» Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui venaient. Qui est chrétien et qui souffre aujourd'hui ? Ok, vous n'êtes pas maudit, vous savez, parce que vous souffrez. Vous êtes juste chrétien. La vie chrétienne suppose évidemment son lot de souffrances. Et de croire que la vie chrétienne, c'est être défait de toute souffrance, c'est juste pas une réalité, hein. Ou alors c'est que Jésus, il était pas trop bien spirituellement, hein, parce que lui, pour avoir souffert, il a souffert. Et prenez l'apôtre Paul, et prenez tous ceux de Hébreux 11. Au contraire, c'est au travers de leur foi qu'ils ont, au travers de leur souffrance qu'ils ont donné sens à leur foi. Leur foi est mise en relief au travers de leur capacité à persévérer dans les souffrances. Non parce que ce sont des gens très spirituels, mais parce que Dieu était à l'action en eux et leur permettant de traverser les difficultés sans perdre la foi. En toutes circonstances. Dans les bons et les mauvais jours. Que nous soyons engagés avec le Seigneur, ou que nous soyons plus simplement intéressés par l'Évangile, il est normal que nous nous posions la question des conséquences de notre engagement de foi. Suivre Jésus a des conséquences. Il n'est pas populaire, le pasteur de la Ciotat, là. Il va faire fuir tout le monde, hein, s'il continue. Où ma foi va-t-elle m'amener ? Quelles en sont les finalités ? À quoi dois-je m'attendre ? Des fois, il suffit d'écouter les prières pour savoir ce que certains attendent. Et je me dis, il va y avoir de la désillusion dans l'air. Il risque d'être déçu. Parce que s'ils ne reçoivent pas l'objet de leur passion, parce que il est quand même dit, vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc s'ils ne reçoivent pas l'objet de leur passion, quelle sera donc leur réaction ? Aucun enfant adore le Père Noël s'il n'apporte jamais de cadeaux. Et c'est dur de suivre un Dieu qui ne te donne pas ce que tu as envie, mais qui fait ce que lui a envie. C'est plus la même motivation, là. Il est normal que nous nous posions toutes ces questions. Où ma foi va m'amener? Quelles en sont les finalités? À quoi dois-je m'attendre? Et que nous nous demandions ce que le Seigneur attend de nous. Vous savez, quand je ressentais l'appel de Dieu dans mon cœur à le servir dans le ministère à plein temps, ça bouillait dedans. Mon corps était un volcan. J'y pensais le jour, j'en rêvais la nuit. J'écoutais les pasteurs, j'étais assis sur ma chaise et je me disais, pourquoi il n'a pas dit ça? Il devrait dire ça, ce serait bien s'il disait ça à ce moment-là. Et je reprenais toutes leurs prédications, je les filtrais, et j'essayais de voir comment améliorer les choses. Et puis je sentais l'appel qui bouillait en moi, plusieurs personnes étaient venues en me disant, Xavier, tu as un appel pour servir Dieu, etc.
Oh, j'ai un appel pour servir Dieu.
Oh. Puis à un moment donné, je suis allé voir mon pasteur et j'ai fait, pasteur, depuis je ne sais pas combien de temps, ça me hante, c'est toujours en moi. C'est... Il me dit, je le savais. Ah, tant mieux. Ça va dans le bon sens. Ok. Eh bien, on va t'inscrire pour te former à l'école biblique, etc. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis assis. Et vous savez ce que je me suis dit? Il a dit oui! Je me suis assis chez moi à ma table. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que t'as dit là? Tu es fou. T'as un travail. T'es installé. T'as ta voiture, ton appartement. T'as tes assurances. Ton salaire tombe tous les mois. Et là, tu vas partir au milieu des gitans. Tu vas devoir tout vendre, t'acheter une caravane, un bout de camion, là. Tu vas lâcher ton travail. Mais tu vas tout perdre. T'as mesuré ça? Et d'un seul coup, il y avait le discours contraire. Mais je suis fou, faut pas faire ça. Comment je vais faire avec ma femme? J'ai un petit bébé, Noémie, elle était bébé. J'ai un petit bébé, mais comment je vais faire pour les nourrir? Comment on va s'en sortir? Waouh! Je commençais à mesurer ce qui allait m'arriver, et ça m'est arrivé. Hein. Le problème, ou grâce à Dieu, j'avais fait mon engagement avant de mesurer. Si j'avais tout mesuré avant de prendre l'engagement, vous voulez que je vous dise une chose? Je ne serais jamais devenu pasteur. Pas que c'est pas bien d'être pasteur, c'est une grâce formidable. Mais j'aurais eu trop peur. J'aurais dit non mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Parce que j'aurais mesuré toutes ces choses en fonction de moi-même. Et je sais très bien que j'aurais pas pu traverser tout ce que j'ai traversé dans le ministère si le Seigneur n'avait pas été dans ma vie. Pouvons-nous savoir ce que nous réserve le chemin qui est devant nous? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a devant lui? Pouvons-nous savoir ce que nous réserve le chemin qui est devant nous? Ce que nous sommes appelés à suivre, ce n'est pas un avenir meilleur. Comment ça? Il est dit dans Jérémie, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais moi je vous dis, on n'est pas appelé à suivre un avenir meilleur. Ce n'est pas un objectif de vie que de suivre Jésus. Ce que nous sommes appelés à suivre, ce n'est pas un avenir meilleur, ce n'est pas un objectif de vie, des perspectives de développement personnel. Ce n'est même pas le rêve que nous avons construit à l'intérieur de nous. Et que certains souhaitent nous vendre tout en nous parlant de la foi. Ce que nous sommes appelés à suivre, c'est une personne. C'est Jésus. Suis-moi, disait-il. Ne suis pas tes projets, ne suis pas tes désirs, ne suis pas tes envies, ne suis pas tes perspectives, ne vise pas un développement personnel. Suis-moi, moi, disait Jésus. Les deux textes de Matthieu 8 et de Luc 9 sont précisément là pour nous permettre de nous poser les bonnes questions. Ils sont là non pour fabriquer des disciples ou pour faire un recrutement de disciples, mais pour donner la possibilité à ceux qui ne le sont pas et qui croient l'être de quitter la barque de Christ. T'as pas embarqué. Et aux autres de s'apprêter à vivre la tempête. Si tu montes dans la barque, c'est la tempête. Voilà ce qu'ils vont faire avec toi, ils vont te persécuter. Tu as la possibilité de ne pas embarquer, que vas-tu faire? Tu peux retourner à ta vie, tu peux retourner à ton actualité, à ton quotidien. Ou tu as la possibilité de monter dans la barque avec moi, mais si tu me suis, voilà ce qui va se passer. Assure-toi d'être un vrai disciple, parce que sinon tu ne pourras pas tenir. Parce que ça va être la catastrophe pour toi. Ceux qui ont voulu suivre Jésus alors qu'ils ne l'étaient pas, regardez dans la Bible comment ça s'est terminé. Judas a voulu suivre Jésus alors qu'il n'était pas un vrai chrétien. Regardez comment ça s'est terminé. La déclaration du scribe est là comme une importance pour nous. Je l'appelle le scribe enjoué, le premier. Et notre passage commence avec un scribe qui s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et la déclaration de ce scribe devait sans doute ravir les disciples de Jésus. Oh, « T'as entendu ce qu'il a dit le scribe ? Il a dit qu'il va suivre Jésus partout. » Oh les gars, un scribe. Ça y est, on a recruté un scribe. Non mais un scribe, s'il te plaît. Tu sais ce que c'est un scribe ? C'était les gars qui travaillaient avec les pharisiens. C'était des hommes versés dans la loi, des érudits. Waouh ! Alors qu'au milieu de Jésus, il y avait des pêcheurs. Il y avait un scribe ! Ouf ! En effet, les scribes étaient des érudits, des hommes qui connaissaient la loi de Dieu et qui détenaient une réelle intelligence. Les scribes étaient très considérés par leurs compatriotes. Et de telles personnes au milieu de disciples donnaient quelque part du crédit à la foi de tous. Si les scribes nous suivent, ça veut dire qu'on ne se trompe pas, les gars. Un scribe, t'as vu la tête qu'il a, lui ? Qui plus est, ce scribe était un homme volontaire. Quelqu'un de motivé. Qui avait envie de s'engager. Dites-moi, on est avec l'équipe pastorale et puis on vous demande votre avis. Un beau matin dans l'église, nous entre un scribe. Un docteur dans la physique appliquée, qui connaît toutes les lois de la nature, etc. Quelqu'un de très réputé, qui fait des conférences et des colloques de partout, que les gens l'applaudissent à la fin de ses discussions. Et il dit, voilà, je veux être avec vous et je veux vous suivre dans la foi chrétienne, je veux être un disciple de Jésus-Christ. Et si je vous dis, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? On l'accueille ou pas ? Vous allez dire, ah bah ouais, attends. Waouh ! Super ! Quelqu'un avec une dimension, avec une intelligence hors norme, veut être un disciple de Jésus-Christ. On n'est pas fous, nous les chrétiens, puisque des gens très intelligents acceptent Jésus. Waouh ! Qui plus est, ce scribe était un homme volontaire. En plus, il en veut, le gars. Ah, il est prêt, il est à fond. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Était une formidable déclaration d'intention. Pour les autres disciples, cette déclaration semblait en plus profondément biblique. Seulement, il n'a pas dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, mais Maître. Je te suivrai partout où tu iras, et ça a une incidence quand même. C'est-à-dire, il ne reconnaissait pas Jésus comme Seigneur, mais comme un grand rabbin. Lui qui était au contact des pharisiens et qui connaissait le système rabbinique. C'était important de suivre un rabbin pour recevoir son enseignement. Maître, partout où tu iras, je te suivrai. Pour moi, tu as un grand enseignement. Alors je veux te suivre. Et peut-être que nous, on aurait entendu cette déclaration d'intention, on se serait dit, c'est véritablement un chrétien ce gars. Regarde, il veut suivre Jésus partout où Jésus va aller. Son désir de suivre Jésus et cette formidable déclaration était sans doute suffisant pour embarquer dans le bateau de Jésus. Monte, scribe, rentre dans le bateau, viens avec nous. Cependant, l'attitude de Jésus fut tout autre. Il répondit à ce scribe enthousiaste et volontaire que le Fils de l'homme n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Et que si les renards ont des tanières et que les oiseaux du ciel ont des nids, en langage courant, Jésus dit, moi je suis un SDF. Voilà. Tu veux vivre avec un SDF ? Je te suivrai partout où tu iras. Ouais, mais j'ai pas d'endroit. Hein. J'ai pas de maison, j'ai rien, je vis. J'ai rien à moi. Pour simplifier les choses, en réalité, si on remet ça dans un langage courant, acceptes-tu de vivre dans des conditions pires que les animaux sauvages ? Qui, par motif de foi chrétienne, est prêt à vivre dans des conditions pires que les animaux sauvages. Je pense que Jésus, il exagère. Non ? Tu te rends pas compte ? Jésus, il avait quand même des gens qui l'accueillaient dans des maisons, quand on lui faisait quand même des repas et tout. Pourquoi il parle comme ça, là ? Qu'est-ce que Jésus pointait par une telle déclaration ? Mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Si on regarde la stratégie d'évangélisation de Jésus, il faut qu'il vienne faire des séminaires avec nous. Hein. On va lui expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hé, hey, Jésus, si tu veux gagner une âme, il ne faut pas parler comme ça. Hein. Déjà, quand on chope un qui accepte de t'écouter, mais si tu commences à lui balancer des phrases comme ça, là, écoute Jésus, là, t'es out, quoi. Nous, on connaît les méthodes d'évangélisation. Mais toi, là, t'es à côté. Mais qu'est-ce que Jésus pointait ? Si les animaux comme les renards et les oiseaux ont des domiciles où ils peuvent aller se reposer, suivre Jésus impliquait un tel engagement qu'il ne fallait pas être attaché à l'amour de son propre confort. C'est dingue. Là, je sens que certains vont avoir un super sourire. Je le vois. C'est dingue comme un canapé moelleux peut te retenir dans ses bras un dimanche après-midi. Vous êtes déjà fait prendre par votre canapé ou par votre édredon, votre couette dans le lit, elle vous tient là, vous n'arrivez même pas à sortir et vous dites, oh là, comme là, je suis trop bien là. En plus, j'ai un coussin à mémoire de forme. Oh, ça prend toute la forme. Même mon matelas, il est à mémoire de forme. Oh, je suis dans une coque de mousse. Ah, le confort. Quelle allait être la réaction de notre scribe enjoué ? Le but de Jésus avec une telle déclaration était d'aider le scribe à évaluer la réalité sincère de son engagement. Était-il dans la sincérité ou pas ? Faire de grandes déclarations de foi est facile, surtout quand on ignore le coût de l'engagement impliqué. Vous savez, avant de baptiser, j'aime bien prendre du temps pour que chacun puisse comprendre à quoi il s'engage. L'homme est assurément capable de s'approcher de Jésus et de lui faire des belles déclarations émanant d'une foi profondément humaine et limitée. Nous devrions nous questionner à propos de notre foi. Avec quoi nous nous approchons du Seigneur ? Que mettons-nous derrière notre foi ? J'ai la foi. Ouais, mais il y a quoi derrière ? Qu'est-ce qui la pousse ? Et qui la motive réellement. Nous avons tous nos conceptions de la spiritualité, de ses implications dans notre vie quotidienne, et des avantages que nous sommes susceptibles d'en retirer. Nous avons nos propres idées de ce qu'est la vie chrétienne, notre propre vision de la foi et du service chrétien. Cependant, la réalité n'est pas toujours conforme à ce que nous avions prévu ou pensions. Et les problèmes surgissent quand d'un coup les choses ne se passent pas comme elles aurait dû se passer selon notre logique et nos propres perspectives. C'est l'heure des déconvenues. C'est l'heure des déceptions, des désillusions. Quand nos rêves volent en éclats. Quand ce qu'on croyait être, en réalité, n'est pas, mais c'est tout autre chose. Lorsqu'arrivent les déceptions, l'Église ne ressemble pas à ce qu'elle était dans l'image que nous nous faisions d'elle. Au début où je suis arrivé, je pensais que... Oh, je suis au paradis. Les chrétiens ne sont plus ces petites créatures parfaites qui sont supposées se baigner continuellement dans un fleuve d'amour et de paix. Oh, ils sont tous beaux, ils sont tous gentils. Attends un peu. J'ai quelques brebis, ils donnent des sacrés coups de tête, mon ami. Il y a des belliqueuses. Il y en a certaines, ne prends pas la nourriture dans leur assiette, ils vont te mordre. Hein. Au début, tu regardes, tu fais « Waouh, je suis arrivé au pays des Schtroumpfs. Ils sont tous beaux, ils sont tous gentils. » Ta Schtroumpf pasteur, ta Schtroumpf chanteur, ta Schtroumpf d'une service d'accueil. C'est génial. Et les déceptions, elles vont arriver. J'ai cherché l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvée dans l'Église. C'est pour ça que je dis beaucoup quand les gens arrivent, bonjour, en chantier. Ah non, c'est pas en chantier, c'est en chanté. Non, non, en chantier. Si le pasteur est encore en chantier, imaginez-vous les autres où ils en sont. Vous n'arrivez pas dans un monde parfait. Hein. Le monde parfait, c'est de l'autre côté. Là, pour l'instant, on est en train de s'y préparer. On essaye de faire au mieux et on fait confiance au Seigneur pour que tout soit fini quand il va revenir. Je sais que la nature humaine est changeante. Instable et centrée sur elle-même. Et que bien des gens sont attirés à lui par l'emballement, le prestige ou l'espoir d'obtenir des avantages personnels. Comme la guérison ou de la nourriture, ils s'empressent de prendre le train en marche quand les choses vont bien. Mais dès que la cause devient impopulaire ou exige des sacrifices, ils sont prêts à sauter du train. Au secours, fuyons. Nous n'avons rien à gagner dans cette affaire. Au début, on dirait qu'ils sont vivants pour Christ. Et souvent, ils ont des témoignages percutants. J'ai écouté ces témoignages. Et 3 ans après, la personne était repartie dans son bourbier. Témoignages percutants. Mais quand leur association avec Jésus commence à leur coûter plus que ce qu'ils pensaient, ils perdent tout intérêt et on ne les revoit plus jamais. Lorsque les disciples sont montés dans la barque avec Jésus, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils allaient bientôt traverser la tempête. Les paroles du Seigneur aux scribes enjoués l'ont atteint là où il était faible et réticent et sa véritable loyauté envers son propre confort, s'est bien vite manifesté. Aux scribes enthousiastes comme à nous ce matin, Jésus demande de renoncer à ce que nous pensons que pourrait être notre engagement, à ce que nous pensons qu'aurait pu être notre engagement. Pour répondre à Jésus, il faut accepter de se dessaisir de son avenir. Je me dessaisis de toute perspective d'avenir. Je n'ai plus aucun désir d'avenir. Je suis devenu punk. Mon futur. J'ai plus de projet de futur. J'ai plus de perspective d'avenir. Je n'ai plus d'idéal de vie. Je n'ai plus de rêve. Je suis Jésus. Et je me contente de le suivre, lui. Où il ira, j'irai. Mon avenir, c'est Jésus. Voilà ma seule perspective d'avenir. Ce ne sont plus des projets, Ce ne sont plus des rendez-vous de ma vie. C'est suivre Jésus. Il est celui en qui j'ai tout. Et pour suivre Jésus, il faut accepter de se dessaisir de l'avenir. De laisser nos rêves et nos idées toutes faites derrière nous pour aller sur l'autre bord. Et ça commence par traverser quoi ? Une tempête. Alors même si tu t'as cru que tu pouvais, la tempête généralement, elle entraîne les plus téméraires, ceux qui se sont crus au milieu de la tempête, après c'est foutu. L'engagement chrétien n'est pas un attachement à un idéal, ni à un projet, ni à un avenir, mais à une personne qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus-Christ. Et à ce point précis, ne comprenez pas mal mes propos. Il ne signifie pas que l'insécurité et l'inconfort ont une valeur en soi. Je ne suis pas en train de dire ça. Le véritable propos est qu'il existe quelque chose de plus important que la sécurité et le confort. C'est d'annoncer et de vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, être et faire des disciples. Être disciple demande de redéfinir ses allégeances. C'est quoi une allégeance ? C'est jurer foi et fidélité à un souverain. Quoi qu'il advienne, je te suivrai. Je te fais allégeance. Et la question que vous devez tous vous poser ce matin, avez-vous d'autres allégeances que celles que vous devez à Jésus-Christ ? Avez-vous juré fidélité à autre chose ou à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ ? Bien sûr, les maris et les femmes qui ne font plus qu'un, la fidélité au sein du couple, c'est normal et ça doit être. Mais avez-vous d'autres allégeances ? D'autres engagements de fidélité envers certaines choses ? Qui pourraient être en réalité des choses qui luttent contre votre foi. Être disciple demande de redéfinir ses allégeances, ses priorités. Bien sûr, nous serions tentés d'adoucir le message de l'Évangile en tentant de le faire passer pour moins exigeant qu'il n'est en réalité. Mais cela compromet non seulement la parole de Dieu et nuit au Seigneur, mais nuit également à ceux à qui nous témoignons. Parce que parfois, on annonce l'Évangile comme on voudrait vendre une voiture maquillée, quoi. Non, elle a 50 000 km, elle a 250 000. Et...
On a bouché les trous, on a dissimulé les choses.
On doit annoncer l'Évangile tel qu'il est, de ce qu'est être un chrétien. Je suis étonné qu'on évangélise en faisant ressortir tout le meilleur, mais bizarrement, quand les musulmans, eux, témoignent de leur foi, ils disent bien qu'il y a un prix à payer pour la foi musulmane, non ? Les gens savent que derrière, l'engagement, il est bien comme il faut. Est-ce que ça recule les disciples de l'islam de s'engager ? Ben non. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin d'une foi qui les engage vraiment. De quelque chose qui prend sens dans leur vie. De quelque chose qui les motive puissamment. Qui leur permette de se transcender d'un quotidien tellement banal et de projets de vie, mais tellement réduits. Une cause profonde qui les anime dans tous les actes de leur vie. Qui prend sens dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils regardent ou dans tout ce qu'ils refusent de regarder. Un engagement tellement présent, tellement profond, qui émane d'un véritable changement de vie et de paradigme. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Tout a changé, dit le cantique, quand il est devenu le maître de ma vie. Le scribe qui était venu voir Jésus sur la rive de la mer de Galilée n'était pas prêt à payer le prix, ce prix pareil pour sa foi. Il voulait simplement ajouter de l'emballement à sa vie. Jouir du prestige d'être identifié à un leader populaire. S'il y avait des selfies, il aurait fait un selfie avec Jésus. Vous avez vu avec qui je suis là? On l'aurait vu sur Facebook, Instagram et Twitter. Avoir ce prestige d'être identifié un leader populaire. Ou il avait quelque autre objectif tout aussi égocentrique. Suivre Jésus est une formidable aventure jusqu'à ce que nous l'entendions nous dire « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Non mais Seigneur, sans la croix c'est plus facile de te suivre, tu sais. Pourquoi tu nous mets un handicap d'entrée là? Tu veux qu'on te suive et tu nous charges d'une croix là? Ben, si tu veux me suivre, si tu veux être mon disciple, tu ne peux pas me suivre sans porter ta croix. Ah. Un jour, j'ai vu une photo, j'aurais dû la mettre. Vous voyez un gars aux États-Unis, c'est marqué « Jésus sauve » sur la croix, il a une croix, il est sur une route. Et quand vous regardez bien la photo, en bas de la croix, vous avez une petite roulette. C'est dingue comme une petite roulette peut rendre la marche plus facile. Jésus n'avait pas de petite roulette sous sa croix. Pourquoi il a mis une roulette, lui, là? La question que je vous pose ce matin, avez-vous une petite roulette sous votre croix? Des choses qui rendent la vie chrétienne un peu plus facile. Que chacun s'examine lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce scribe illustre ceux qui veulent bien les avantages du fait de suivre Jésus, mais pas les sacrifices que cela incombe. Ne soyons pas de ceux qui prennent des engagements sous le couvert de la spontanéité, ni de ceux qui se retirent pour se perdre. La vie chrétienne suppose de prendre le temps de réfléchir et de savoir si l'on pourra aller jusqu'au bout de la course, si l'on pourra terminer la construction de notre maison spirituelle. Dans Hébreux 10, 39, il est dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et Paul disait dans Galates 5, 7, « Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Il n'est pas suffisant de courir, pas utile de courir vite, pas besoin de chercher la performance. La vie chrétienne est une vie d'endurance, une vie de foi dans le terrain de l'adversité. Je ne suis pas populaire, Mathias, hein, ça ne va pas le faire. Hein. Ça va ? Une vie de foi dans le terrain de l'adversité. Ça va ? Ok. Je vous aime. On va y arriver. Pour terminer, notre scribe semblait avoir de nombreuses caractéristiques qui faisaient de lui un bon candidat. Mais nous voyons que ses limitations révélaient une foi tout aussi insuffisante et un opportunisme omniprésent dans sa vie. Il aurait pu monter dans les barques avec Jésus et les autres disciples avec son curriculum vitae. Mais la tempête qu'ils allaient affronter ne permettait pas à Jésus de laisser monter à son bord un homme aussi léger dans sa foi. Suivre Jésus dépasse de loin les capacités d'une personne. Il faut pour y parvenir que Christ vive en nous. C'est sa foi, lui, en nous, qui nous permet de traverser, d'aller jusqu'au bout. Et pour notre scribe, ce ne fut pas le cas. Sa connaissance de la loi, son bagage intellectuel et toute la considération qu'on lui portait ne suffisaient pas pour faire de lui un vrai chrétien capable de suivre Jésus. Le témoignage de ce scribe est là pour nous donner à réaliser qu'il y a en réalité deux types de chrétiens. Il y a ceux qui suivent Jésus et ceux qui rebroussent chemin quand ils confrontent les limites de leur foi. Si les deux types de chrétiens se réclament être des disciples de Jésus, il n'est pas difficile de comprendre où se démontre la foi des uns et où s'arrête celle des autres. Et la question qui se pose à nous ce matin, c'est jusqu'où pourrez-vous aller avec la foi qui est en vous ? C'est bizarre, au fur et à mesure que Jésus avançait vers la croix, il y avait de moins en moins de monde qui le suivait. Hein. À la fin, tous l'ont abandonné. À Gethsémané, ils étaient tous en train de dormir. À Gethsémané, tous en train de dormir. Et à Golgotha, abandonnés. Écoutez bien ce que c'est que la foi des chrétiens, et je vais terminer là-dessus. Hébreux chapitre 11, verset 33, à Hébreux chapitre 12, verset 1er. Il est parlé des chrétiens, de ceux qui ont la foi de Jésus en eux. Je vais vous expliquer ce que c'est que la foi du chrétien, ce que ça permet de vivre la foi d'un chrétien. Je ne suis pas en train de vous dire, la foi, ça te permet de croire que tu vas avoir un meilleur salaire à la fin du mois. La foi, ça te permet, quand tu es malade, de croire que tu vas être guéri et tu vas être guéri. Non. La foi, ça te permet de vaincre tes limites et devenir un homme fort et vaillant. Un leader. Avec l'accent. Je veux être un leader. Alors je fais des cours de leadership. Tu fais le cours de leader et après tu manges des chips. Je vais vous dire ce que c'est qu'un chrétien. Dans quoi on va reconnaître le chrétien ? Ça va, vous êtes prêts ? C'est la dernière couche et après je vous libère. Soutenu par leur foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint le feu ardent, échappé au tranchant de l'épée, triomphé de la maladie. Là, tu peux dire amen. Oh, qui veut s'engager à être chrétien ? Ok, attendez, je continue. Ils sont devenus forts et ont fait preuve de vaillance dans les batailles. À quoi il faut aller batailler ? Mettant en fuite des armées ennemies. Des fois, ils étaient deux devant une armée entière de sanguinaires. Deux. Ils sont devenus forts et ont fait preuve de vaillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Des mères ont vu leur enfant mort ressuscité pour leur être rendu. D'autres, par contre, et là, c'est bizarre, c'est peut-être le moment où certains vont faire salut. D'autres, par contre, ont été torturés et ont refusé d'être délivrés. Si vous reniez, on vous libère. Non. Ils ont refusé d'être délivrés. Car ils espéraient être amenés par la résurrection à une vie meilleure. Tu es moi, je vais vers le meilleur. Vous allez me rendre service. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, et même les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. Choisis l'option. Tu préfères laquelle ? C'est chouette, si en deux, non ? Certains ont dû mener une vie errante, allant ça et là, recouverts de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités par un monde indigne d'eux. Ils ont erré dans les déserts ou sur les montagnes, se réfugiant dans les cavernes et les antres de la terre, Dieu a rendu à la foi de tous ces hommes et femmes un excellent témoignage, et cependant, aucun d'eux n'a vu se réaliser ce qui leur était promis. En plus, ils n'ont même pas vu la réalisation des promesses qu'ils avaient reçues. Ils n'ont pas vu la venue du Messie, certains. Ce que Dieu, dans son plan, avait prévu, c'est que Dieu, dans son plan, avait prévu mieux encore pour nous. Et il ne voulait pas qu'ils parviennent au but sans nous. Alors ils nous attendent, encore. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, c'est vers eux que doivent porter nos regards, pas vers les apôtres de la prospérité qui roulent en Rolls Royce, en Hummer et qui ont des grandes villas à plusieurs milliards de dollars. C'est pas vers eux que tu dois diriger tes regards. C'est vers eux là. Ça, c'est les chrétiens. Ça, ce sont des hommes et des femmes de foi. Relis Hébreux 11 et regarde ce que c'est que les chrétiens, que les gens qui ont la foi en Dieu. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Débarrasse-toi. En particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement comme notre canapé, vous savez. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Il nous a laissé une piste toute tracée, Jésus. Il est celui que nous devons suivre. Aucun homme, aucune religion n'est à suivre. Suivez Jésus et lui seul. Mais avant de le suivre, il était important pour moi, au travers de ce disciple qui se disait disciple, de ce scribe, de vous expliquer ce que c'est que d'être chrétien et de suivre Jésus. Vous aurez des bénédictions. Ces gens d'Hébreux 11 en ont eu. Ils ont vécu des miracles. Ils ont vécu des choses tellement glorieuses. Et que Dieu soit béni, j'ai pu en vivre. Et si vous ne les avez pas encore vécues, vous en vivrez. Mais acceptez de voir aussi l'autre côté de la pièce. Parce que être chrétien, ce n'est pas n'importe quel engagement. Ce n'est pas quelque chose qui nous amènera le sourire tous les jours dans le visage. Dans le temps, on disait, un chrétien triste est un triste chrétien. Eh ben, pauvre que tu es. Je pense qu'on peut être un chrétien triste parfois. Et il y a de quoi l'être. Devant l'état de notre monde, devant les décisions prises par nos gouvernements, il y a de quoi être attristé profondément. Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois sentir cette tristesse en toi. Tu dois être gêné d'entendre certaines choses, gêné de les voir, et de te dire, mais c'est pas possible qu'on en soit arrivé là. Ça devrait forcer notre intercession et de dire, Seigneur, mais aie pitié. Et pitié, que faisait Abraham lorsqu'il a su que le déluge allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe? Il s'est mis à intercéder. Y aurait-il 50 justes? Y aurait-il 10 justes? 5 justes? Un seul. Il s'est mis à intercéder parce qu'il voyait dans quel état étaient ses contemporains. Au lieu d'intercéder pour avoir la dernière console, d'intercéder pour avoir un écran plat plus large, d'intercéder pour avoir la nouvelle voiture ou je sais pas quoi, on devrait tellement pleurer sur l'état de ceux qui nous entourent et de dire, mais Seigneur, aie pitié. Seigneur, devant l'état de l'Église, mais aie pitié, on est tellement égocentrique. On veut monter dans ton bateau, mais on est plus préoccupé par nous que par ton royaume. On est plus en train de prier pour nos besoins que pour les tiens. On est plus en train de réclamer pour nous. Alors que tu as dit, mais souciez-vous du royaume des cieux. Je m'occupe de tout le reste. Arrêtez de prier pour vous. Priez pour les choses du royaume. Parce que pendant que vous allez prier pour ça, moi je vais m'occuper du reste. Mais on est tellement à côté. On prie pour tout le reste. Mais les affaires du royaume, on en est tellement défait parfois. Et si je vous posais la question, en quoi ça consiste que de s'occuper des affaires du royaume et d'intercéder pour les affaires du royaume, Qu'est-ce que cela suppose exactement dans tes prières et dans tes actes au quotidien? Qu'est-ce que cela réclame? Je pense qu'on pourrait être très étonné devant...
Je sais pas.
Mais dis-moi, ça consiste à quoi que de prier pour ton petit royaume à toi? Pour tes propres affaires à toi? Ah bah là... Alors moi j'ai besoin de ça, il faut que j'ai ça, j'ai tel projet, j'ai telle chose, j'aimerais que Dieu m'aide à réaliser ça, qu'il m'aide dans mon école, qu'il m'aide dans ça. Moi je veux faire médecin, moi je veux faire plombier, moi je veux faire... Dans notre royaume, tout est bien géré, organisé, voire même on a plusieurs options possibles. Si ce chemin-là bouche, hop, on ira sur l'autre d'à côté, on a des passerelles, on a... Waouh ! On a un royaume tout à fait génial. Et on dit au Seigneur... C'est là que je veux m'impliquer, donc viens me bénir là-dedans. Là. Et Jésus dit, mais t'es à côté, quoi. Je vais m'occuper là, des choses de la terre pour toi. Mais toi, préoccupe-toi des choses du ciel. Voilà ta priorité. Suis-moi. Suis-moi. Suis-moi.